Je ferai de Dieu mon essentiel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La seule chose, c'est que c'est facile à partager, à dire, et c'est plus difficile à vivre au quotidien, mais on est des êtres humains avec nos limites, mais on a la foi et on compte sur la grâce de Dieu aussi. On sait que tout ne dépend pas de nous, c'est lui qui vit en nous par son esprit. On veut penser aussi à ceux qui sont, avant de commencer le partage biblique, ceux qui sont en difficulté. Il y a eu des demandes de prière, on prie aussi pour certains et certaines. Peut-être je vais en citer quelques-uns, mais peut-être d'autres qui sont sur Zoom ou concernés. Ne vous soyez pas frustrés si je ne cite pas votre nom. Hein. Ce n'est pas essentiel cela, mais Dieu voit votre cœur et connaît votre corps aussi. Donc si jamais j'oubliais quelqu'un, vous me pardonnez d'avance. Hein. Je voudrais citer deux situations. On va prier pour eux. On pense à notre sœur Janine Morezin, qui est en soins intensifs donc, à la clinique Claude Bernard. Que le Seigneur la bénisse. Et si même le Seigneur doit la reprendre, elle est prête, comme elle dit, mais c'est toujours difficile hein, pour les personnes. Et on prie aussi donc pour notre sœur Viviane et pour ses enfants, les enfants de Janine. C'est toujours un peu compliqué. Et après, on va aussi prier pour Evan. Hein, vous avez, pour vous qui êtes sur le site, le WhatsApp de l'Église, vous savez que le petit-fils de notre frère Jean-Jacques était parti. Il y a eu des raisons voilà, qui fait qu'il est revenu chez lui. C'est une grâce de Dieu, mais il a besoin aussi de victoire dans sa vie. Il a besoin de la grâce de Dieu dans son cœur. Et on va prier donc pour Janine et Evan, vous voulez bien? Et puis peut-être vous pensez à d'autres. Si vous êtes concernés aussi, priez, parce que Dieu, lui, sait tout. Et ne soyez pas en disant ça, c'est restreint, non? Dieu veut faire grâce. On prie pour ses bien-aimés, si vous voulez bien. Te prions pour Evan. Nous te rendons grâce déjà du fait qu'il soit revenu de cette fugue, de ce temps où il était éloigné de sa famille. Et tu as entendu le cri de cette famille, et il a pu revenir dans son foyer. Mais nous prions, au-delà du retour, qu'il y ait un retour vers toi, réel. Qu'il y ait dans le cœur d'Evan quelque chose qui se passe dans son âme, au plus profond de son être, afin qu'il ne s'arrête pas à certaines démarches, mais qu'il y ait la victoire de Christ dans sa vie. Nous voulons le bénir, nous ne le connaissons pas, mais toi tu connais son cœur, tu l'aimes, et tu veux sauver sa vie. Pensons aussi à notre sœur Janine. Seigneur, nous savons qu'elle le dit, elle a dit depuis longtemps qu'elle est prête, mais c'est toujours chose compliquée, d'appréhender les choses difficiles. Mais Seigneur, tu mets un baume sur son cœur, nous le croyons. Tu assures en elle une paix profonde. Si tu dois la reprendre, qu'elle parte dans la paix de Dieu. Mais Seigneur, tu connais aussi les siens, et nous savons qu'il y a de l'espérance pour celui qui croit en toi, de savoir que même si nous partons, nous allons dans la gloire avec toi. Alors, bénis ces bien-aimés. Bien sûr, la séparation est difficile parfois, tu apaises les cœurs, tu vois les craintes, les inquiétudes, mets un baume là aussi sur nos frères et sœurs, ses amis, que Dieu soit béni pour ce que tu vas faire et ce que tu vas accomplir pour eux et pour notre sœur. Amen. Amen. Voilà, je ferai les annonces après, plusieurs annonces, je les ferai après. On va ensemble partager la parole de Dieu sans tarder. Vous êtes dit, peut-être le sujet aujourd'hui, ce sera rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés dans l'année. Vous y avez pensé? Quelqu'un y a pensé peut-être? Eh bien non. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. On va lire un passage et on va prendre ce passage comme référence pour notre partage de ce matin. Actes chapitre 5, verset 17. Actes chapitre 5, verset 17. Le titre de mon message ce matin, c'est « Libérer dans quel but ?» ou « Dans quel but sommes-nous libérés ?» hein, « Dans quel but sommes-nous libérés ?» Et vous allez voir qu'on peut répondre en parallèle à ce passage, à ce récit qu'on va lire, qui est extraordinaire, qui est particulier, comme beaucoup de passages dans la Bible d'ailleurs. Actes chapitre 5, verset 17. J'ai oublié d'accueillir tous ceux qui êtes là. Si vous êtes visiteurs, soyez le bienvenu. Si vous n'êtes pas visiteur, soyez le bienvenu quand même. On est heureux de se retrouver et de partager la parole du Seigneur. Verset 17. « Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez !» Tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dans le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui, étant survenus,
Ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. On comprend, hein ? Ça c'est moi qui rajoute, on comprend. Hein ? Quelqu'un vint leur dire « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes « défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, et voici, vous avez rempli de Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. » Je vais arrêter là parce que la suite, c'est qu'il renouvelle l'interdiction de parler au nom du Seigneur. Ils les font battre de coups de bâton et puis ils les renvoient et eux, ils sont tout heureux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Hein. Cette scène est un peu spéciale, comme beaucoup de scènes des Actes des Apôtres. Pourquoi sont-ils jetés en prison finalement ? Pour quelles raisons ? Il faudrait relire les passages précédents. Il y a plusieurs raisons, mais la principale, qui me semble, c'est que là, ils étaient jaloux. Qui est-ce qui était jaloux ? Il nous est dit que c'était les Sadducéens remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres. Hein. Voilà les gens qui étaient les religieux à un moment donné. Sadducéens, on ne va pas rentrer dans les spécificités doctrinales des Sadducéens, hein, mais ils étaient jaloux, il nous est dit au verset 17, jaloux, hein, jaloux, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres. On voit bien qu'il y avait l'œuvre de Dieu qui se manifestait, il y avait des miracles, il y avait tout un tas de choses qui se passent, si vous lisez auparavant, vous apercevez que les apôtres, alors qu'il n'y a que les apôtres là, il va y avoir une action de Dieu, et des prodiges, des miracles s'accomplissent, et les religieux, s'arc-boute un petit peu contre cette réalité qui se manifeste pour s'opposer aux apôtres. Alors ils se sont dit, le mieux c'est de les mettre en prison hein, et de régler l'affaire en les limitant, en les contraignant, etc. Mais une fois en prison, qu'est-ce qui se passe ? C'est là où c'est fort intéressant, qu'est-ce qui se passe ? Quand un ange vient, il fait sortir les apôtres. On voit bien qu'ils sont gardés parce que c'est dit plus loin dans le texte. Ils ont trouvé des gardes devant et la porte soigneusement fermée. Donc on voit bien que Dieu fait grâce et va faire sortir les apôtres. Ils se retrouvent là dehors, tout est refermé, personne n'a rien vu, à part les apôtres. Hein, et tout le monde est bien sûr surpris. Et voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Hein, et il fait sortir donc les apôtres. Et il dira à la suite, une fois qu'ils sont dehors, l'ange va dire « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Hein, c'est incroyable, et il referme les portes, ce qui fait que le lendemain, quand on vient les chercher, bien sûr, surprise générale, il n'y a personne. Alors les gardes, dehors, les yeux comme ça, ils devaient se regarder en se disant, qu'est-ce qui s'est passé ? Les huissiers et toutes les personnes qui sont allées chercher les apôtres ne les ont pas trouvés. Que font les apôtres une fois dehors ? Qu'est-ce qu'ils font ? Vous êtes là ? Vous avez trop mangé. Qu'est-ce qu'ils font ? Une fois, ils obéissent. Qu'est-ce qu'il nous est dit ? Au verset 21, dès le matin, ils se mirent à enseigner dans le temple. L'ange dit, vous irez dans le temple enseigner cette parole de vie, de cette vie. Eux, ils sont allés dans le temple enseigner le peuple. Alors, quand les huissiers, entre-temps, sont revenus dire au Sanhédrin qu'ils n'étaient pas là, ils ont cherché, et puis ils ont appris qu'ils étaient là-bas dans le temple en train d'enseigner. Donc on va les chercher, mais d'une manière un peu plus modérée, un peu plus retenue, parce qu'on avait peur d'être lapidé par le peuple, qui quelque part était content d'avoir vu les miracles s'accomplir. Hein. Et il nous a dit qu'il ne savait qu'en penser, hein. Il ne savait pas que penser de cette affaire. Et il se présente maintenant à nouveau devant le Sanhédrin. Alors, J'ai dit, le titre de mon message, c'est « Libérer dans quel but ?» Ben, le premier but, pourquoi on a été libérés les uns les autres de notre péché, on a été sauvés, pardonnés, purifiés. Le premier but, c'est ce qu'on retrouve dans les propos de l'ange, hein, en disant « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » C'est-à-dire on a été libérés dans le but d'annoncer le message particulier de la grâce de Dieu, de la victoire de Jésus-Christ, du pardon de Dieu qui peut être manifesté par l'œuvre de Jésus. Hein. Ce message, quel est son contenu? Si vous lisez un peu plus loin dans ce chapitre, on voit au verset 42, qui nous dit que chaque jour, ils étaient dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est-à-dire que dès que l'œuvre de Jésus a été pleinement accomplie, que Jésus est monté à la droite du Père, on voit qu'à l'Église naissante, ce qui motive, ce qui est le fer de lance, je dirais, de l'Église naissante, c'est l'annonce de l'œuvre de Jésus, de la victoire de Jésus-Christ. On a fêté Noël il y a quelques jours en arrière, mais il n'est pas resté petit Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est aujourd'hui à la droite de Dieu. Le message, ce n'est pas une théologie, ce n'est pas des théories religieuses avec plein de dogmes qu'on ne comprend pas la moitié à quoi ça sert, ce n'est pas ça le message qui doit être enseigné et que les apôtres vont devoir enseigner, ce n'est pas du tout cela. Le message concerne seulement la personne de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a de salut en qui ? Est-ce qu'il y a plein de situations ? Non, seulement en Jésus-Christ, en aucun autre. Parce qu'on sait que seulement Jésus peut nous sauver. Alors peut-être quelqu'un, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous, peut-être certains, et vous dites, mais moi, oui, mais Jésus, il a mal fini quand même. Et oui, a priori, il a mal fini. En fait, l'apôtre va le dire, l'apôtre Pierre ici, il dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Vous voyez, il développe le message jusqu'au bout. Le message, c'est quoi? C'est pas Jésus est né, puis voilà, et c'est formidable, les cadeaux, et ceci, cela, et les mages et compagnie. À Morodon, on parlera des mages cet après-midi, mais voilà, ça ne s'arrête pas là. C'est le but de la venue de Jésus, c'est jusqu'à la croix, mourir pour chacun d'entre nous, ressusciter. Il se présente à plusieurs et puis il est élevé à la droite de Dieu. Parce que s'il est ressuscité, son œuvre est pleinement accomplie par la puissance du Seigneur. Et c'est ce que développe l'apôtre Pierre ici et les apôtres de diverses manières. Alors laissez-moi vous donner quelques caractéristiques de ce message qu'on a à transmettre les uns les autres. On n'a pas à faire des sermons. Hein. D'ailleurs, c'est difficile de faire des sermons. On n'a pas à faire des sermons. Mais regardez, ce message est extraordinaire du fait de son auteur, de celui qui l'envoie ce message. Celui qui envoie ce message, c'est Dieu le Père. Dieu le Père a voulu sauver l'humanité, hein, et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Et ce message est extraordinaire et il est véritable. Si c'est Dieu qui parle, il n'est pas comme nous. Nous, les êtres humains, ou les chefs de religion, on peut dire des choses. Les hommes peuvent dire plein de trucs, mais des fois, c'est limite, c'est presque pas la vérité, ou c'est un peu la vérité, ça s'approche de la vérité. Mais Dieu est le véritable. Et le message de Dieu, c'est un message vrai. Et s'il y en a un à qui on peut avoir pleinement confiance en Dieu, et ce que Dieu dit. Les hommes se trompent. Les hommes ne voient pas, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, ça dépend de la longueur de notre nez, mais bon. Mais voilà. Mais ce message, il est digne de confiance, parce que c'est Dieu qui le donne au travers de sa parole, et nous a donné aussi l'œuvre de Jésus. Ce message est puissant et glorieux, parce qu'encore aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui sont sauvées. Encore aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui sont libérées de leur péché, de leur addiction. Encore aujourd'hui, dans ce monde, Jésus encore sauve. Et il faut le comprendre, pas qu'avec la tête, mais avec notre cœur. Donc ce message, c'est un message, non pas un message, voilà, une histoire, un récit, c'est un message de vie, de puissance et de gloire. Mais c'est aussi un message plein d'amour, plein d'amour. Dieu aime l'être humain. Pourquoi Dieu patiente avec nous, hein? Moi, des fois, je me dis, voilà, là, heureusement qu'il a une grande patience. C'est pas vrai? Heureusement qu'il est pleinement patient. Parce que sinon, on serait, depuis un moment, on ne serait plus sur cette terre, je pense. Il est aussi ce message extraordinaire parce qu'il est pour chaque personne, chaque être humain. Peu importe, sans considération d'origine, de statut social, de capacité, de faculté, de ce que vous voyez, vous comprenez ce que ça veut dire ça? tout le monde le comprend. Hein. Sans, voilà, il n'y a pas de pauvres, pas de riches aux yeux de Dieu, il n'y a pas d'érudits, il n'y a pas de gens sans instruction. Bien sûr, c'est la réalité dans ce monde. Mais pour Dieu, il y a un amour profond pour l'être humain. Je ne dis pas qu'il faut être, qu'il faut pas chercher à évoluer, etc. Je ne parle pas de ça. Hein. Je dis, il n'y a plus ni juif ni grec, dira l'apôtre Pierre, hein, comme pour dire, arrêtons de faire ce mur de séparation qu'il y avait entre les juifs et que le Seigneur a quelque part fait tomber. Hein, il n'y a plus donc ni pauvre ni riche, etc. Il développe ces choses. Donc ce message, il est pour toutes les personnes vivantes dans ce monde. Qu'elles soient âgées, qu'elles soient enfants, qu'elles soient vraiment érudites, analphabètes, le message est pour tous. Rappelez-vous cette femme samaritaine, indépendamment du vécu et du passé. Vous vous rappelez la samaritaine, combien elle a eu de mari ? 5. En plus, celui avec qui elle était, ce n'était pas son mari. Hein, donc elle avait un passé qui n'était pas glorieux. Pour, voilà, et sans la juger, hein, je ne jette pas la pierre, parce que c'est la réalité de beaucoup de personnes. Et puis il y a ça, mais il y a d'autres péchés. Hein. Et puis il y a aussi Zachée le cupide, vous vous rappelez Zachée ? Voilà. Mais quand il rencontre Jésus, ils n'ont pas rencontré Jésus parce qu'ils étaient dignes de le recevoir. Bien au contraire. Ils ont rencontré le Christ d'une manière un peu spéciale, fortuite, et il y en a d'autres, hein, pour citer beaucoup de personnes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au contact du Christ, au contact de l'œuvre de Jésus, ou de Jésus, de ce qu'il va dire, il va y avoir un changement complet dans leur cœur et dans leur âme. Hein. Et une autre fois, vous rappelez, il mange chez un pharisien, Jésus, il est là, et puis dans ce repas, il arrive cette femme là qui vient là et qui pleure, etc. Alors, au pied de Jésus, et puis le pharisien qui se dit, ah, s'il savait quelle est cette sorte de femme, hein, parce que bon, elle devait avoir une vie peut-être un peu connue dans le coin, un peu dissolue peut-être, je ne sais pas, hein, mais vous savez, Jésus, il sait ce qu'il pense, ce pharisien, il va dire, c'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Vous voyez, celui qui se croyait au-dessus, quelque part, il se retrouve en bas, là-bas. Hein. Et ça, l'orgueil de la religion, c'est ça, c'est croire que nous, on est meilleurs que les autres. Et même pour nous ici, faites attention de ne pas croire qu'on est au-dessus de qui que ce soit. On est juste privilégié parce qu'on connaît la grâce de Dieu. Hein? Okay? Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Nous voulons nous en rappeler. Alors, je vais aller un peu plus vite, hein, vous inquiétez pas. Tout cela nous encourage également à faire ce que l'ange a dit. C'est-à-dire tout ce qu'on vient de voir. Eux, ils annoncent le message. Ils ont été en prison. Hein, ils auraient pu dire, oh non, mais on va attendre un peu que ça se calme. Hein. Hein, faut que ce soit, voilà, il faut pas choquer, hein, faut pas choquer. Notre message, il faut être adapté quand même. Hein. Paul a dit, je me fais tout à tous, alors je vais. Non, c'est pas comme ça que ça marche, hein, d'accord. Vous comprenez, j'exagère toujours, je force le trait, mais ils annoncent au peuple et nous voulons annoncer à cette génération qui est autour de nous que en quoi nous croyons. Parce que c'est pas un message, excusez-moi, politique, c'est pas un message théorique, c'est la vie en abondance. C'est le pardon de Dieu pour chacun. Et cela, même s'il y a des restrictions comme eux, d'annoncer hein, le nom de Jésus, qui peuvent être imposées ou nous serons imposées plus tard. Est-ce qu'on va se taire ? Ce message, c'est pas le nôtre, mes frères et sœurs, c'est le sien. Hein. Et son bras n'est pas trop court pour sauver et délivrer. Et même s'il y a de l'opposition, on le voit dans les pays où il y a la persécution, il y a de l'opposition, on veut museler, faire taire les chrétiens, les enfermer, et le diable fait tout pour essayer de faire barrage à la propagation de l'évangile, mais béni soit le Seigneur, lui, sa grâce surabonde. Son action est à l'œuvre. C'est ainsi que dans les pays les plus fermés, vous avez des chrétiens. Bon, c'est vrai, ils sont en prison parfois, ou ils sont dans des camps de travaux forcés. Ok, c'est vrai, c'est difficile et douloureux, mais est-ce que Dieu n'est pas intervenu ? Est-ce que Dieu ne se glorifie pas ? Vous voyez ? Et nous voulons être un même exemple que ces apôtres. Ils ne se sont pas laissés arrêter, dissuader dans ce que l'ange leur avait dit. Ils sont allés au temple et ils ont annoncé au peuple toutes les paroles de cette vie. D'ailleurs, si vous regardez dans les chapitres qui suivent un peu plus tard, vous voyez qu'ils diront ceux qui avaient été dispersés. Alors, ce n'était pas que les apôtres, là, maintenant, si je parle des autres, avant, qui ont été dispersés, les chrétiens, hein, les disciples, ils ont été dispersés, ils restaient à Jérusalem que les apôtres. Et voici, quand ils sont dispersés, il nous dit, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Vous voyez, le message, c'est pas juste les apôtres, c'est pas les apôtres et puis la structure selon la Bible comme elle est définie. Pour nous, ce serait aujourd'hui, je sais pas moi, les pasteurs, les anciens, etc. Non, c'est tous annoncer la parole de Dieu. Dans Marc 16, 20, il dit, ils s'en allèrent prêcher partout, à Carmo, à Albi, à Saint-Jury, c'est pas la Bible ça, à Saint-Afrique, à Morodon, à Gaillac, où c'est que tu habites, hein, à Almerac, à Cahuzac-sur-Vert, si vous habitez à Cahuzac-sur-Vert, dans la Pampa, je ne sais pas, c'est pas un mot ça, hein, par là, tu peux annoncer la parole du Seigneur. Alléluia. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il nous est dit, à la fin de ce chapitre qu'on vient de lire, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Donc on a été libérés pour annoncer le message. Et mes frères et sœurs, tant que Jésus n'est pas revenu, on ne peut pas rester passif et attendre qu'il arrive. On ne peut pas rester comme ça. On veut annoncer. Mais non seulement on veut annoncer, mais il nous est dit que dans un autre passage, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par quoi ? Par des miracles et qu'il accompagnait. Dieu agit par son esprit. Vous le saviez ça, hein ? Dieu agit par son esprit. Et la seconde chose, c'est que nous avons été libérés dans le but d'incarner et d'attester ce message. Pas juste, je suis un message, je le dis, puis voilà. Mais ça ne change rien dans ma vie. C'est pas juste, j'adhère, et moi je suis, bon, laissez-moi vivre ma vie. C'est pas ça. C'est pas ça. La Bible dit de Jésus qu'il est la parole faite chair. Vous voyez, elle a été incarnée en Jésus. Cette parole annoncée depuis des siècles, cette parole qui avait été prophétisée depuis tant d'années, qui avait été, marquée, enseignée et enseignée dans le peuple, voici que Jésus vient la vivre. La parole faite chair, incarnée, devenir chair. C'est plus qu'un message et des informations à communiquer, hein, c'est plus que ça. Hein, c'est des réalités spirituelles qui peuvent être incarnées dans chacun d'entre nous. Vous comprenez ce que ça veut dire incarner ? Introduites, agissantes dans nos cœurs, vivantes dans nos cœurs. Car Dieu pardonne les péchés grâce au sang de Jésus. Vous le savez, je ne fais que rappeler ces choses. Mais le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent, dit la parole, on vient de le voir. Hein, et le cœur de celui qui croit en Dieu, ça peut être extraordinaire. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a un changement profond dans son cœur maintenant. Il y a au fond de son être, lorsqu'on connaît la grâce de Dieu, nous le savons, mais je ne fais que le rappeler, nous avons reçu un changement de cœur. Il y a eu comme une, peut-être pour les informaticiens vous comprendrez, une mise à jour du ciel dans le cœur. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans notre cœur. La mentalité est devenue différente, parce que l'Esprit Saint agit dans nos cœurs. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi ? C'est dans la tête et c'est dans ton cœur. Hein. L'amour, la joie, la paix, la patience. Dieu change cet état d'esprit et ce cœur qu'on avait, la pauvre, et aigre, amer, jaloux, peut-être envieux, peut-être ceci, cela. Voici que quand on reçoit l'œuvre de Jésus dans sa vie, voici toutes choses deviennent nouvelles en nous. Et il y a d'autres choses qui sont là, qui doivent être, on doit laisser agir en nous, comprenez-moi. On doit collaborer à l'action et au changement que l'Esprit de Dieu veut nous donner dans notre vie. Mais il y a aussi des actes en conformité, des actes conformes à l'Esprit de l'Évangile. Hein ? Par exemple, dans Éphésiens 5, verset 9, il dit « Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Vous voyez ? Le fruit de la lumière, c'est-à-dire le résultat de la lumière de Dieu dans nos vies, la présence de Dieu, consiste dans ces choses que je viens de citer. L'apôtre Paul aux Philippiens dira « Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Des fruits justes, des comportements qui sont en adéquation avec ce que je dis. Si je dis un message que je fais l'inverse, excusez-moi, le message ne va pas être reçu, hein. C'est pas vrai ? Hein, il y a un proverbe qui dit « Fais ce que je te dis, et ne fais pas. » Vous ne le connaissez pas ? Ouais. Et s'il vous plaît, vous attendez-moi. « Fais ce que je te dis, et ne fais pas ce que je fais. Hein » Vous connaissez ce proverbe. En fait, notre passé est guéri, ou peut-être a besoin encore de guérison, mais voici, les choses anciennes sont passées. Hein, notre passé est guéri, notre présent est nouveau et devient pur, et notre avenir est rempli d'espérance et de vie. Hein, et ce n'est pas un monde illusoire, vous savez, de bisounours, viens à Jésus, tu n'auras plus de problèmes. Ce n'est pas ça le message de la Bible. Tu auras des problèmes, ah ouais, tu en auras, mais il sera avec toi. Tu auras des souffrances, mais il ne t'abandonnera pas. Tu vas couler des fois dans ta foi, mais lui, il veut tout faire pour te relever. Et toi, est-ce que tu le veux ? Donc ça agit dans notre cœur. Nos actes sont empreints de ce qu'il est. Notre vie a été transformée. Et notre corps même est impacté, notre corps. Par la réception de cette bonne nouvelle. Pourquoi ? Ben, je vous cite quelques versets, il y aurait de quoi faire un sujet de prédication. Dans Proverbe 3, 8, il dit « Crains l'Éternel, détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Et quand on lit ça, des fois on peut dire « Ouais, mais vous savez, si on est touché dans notre cœur, notre corps en rejaillit, on le sait bien, avec aujourd'hui la science, on comprend très bien qu'il y a tout ce qui est somatique et toutes ces choses qui existent, que bon, peut-être vous êtes plus à même de comprendre ces choses que moi. Dans Proverbe 4, 20, il dira « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Et il a été fait tout un tas de démarches, d'études qui ont été faites là-dessus, qui seraient fort intéressantes au demeurant, mais on n'a pas le temps de s'y arrêter. Jésus est bien la parole qui a été faite chair. Et puis, je vais dans ce second point, dans le but d'incarner et d'attester ce message, il y a aussi l'assistance de l'Esprit. L'Esprit Saint, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, et viendront, nous ferons notre demeure en lui, dit, hein, si on est fidèle et on demeure dans sa parole. Voilà, ça veut dire que Dieu est agissant. Ce n'est pas nos efforts pour essayer de changer, parce que ça ne va pas très loin. C'est mon effort, c'est de chercher à rester en contact avec lui pour changer et être transformé. Des fois, on peut lutter contre son caractère, on peut lutter contre des choses qui semblent impossibles à changer par nous-mêmes. Mais nous, oui, mais à lui, non. D'accord ? Et des fois, on ne peut pas dire « Ah, mais c'est comme ça, je reste comme ça, et puis j'étais comme ça, et puis j'étais élevé comme ça. » C'est trop facile. Excusez-moi, hein, je suis carré là-dessus, mais c'est trop facile. Et c'est parce que Dieu dit. Dieu dit bah, « si tu... oui, c'est ton passé, mais ton présent peut changer. Fais-lui confiance et crois qu'il peut changer ton cœur. » L'Esprit Saint est agissant. Il désire aussi travailler au travers de nous. Alléluia. Hein ? Il travaille au travers de nous. Beaucoup de prodiges, Actes 5, 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Donc croyons dans l'action de l'Esprit de Dieu. Croyons au don spirituel. Je croyais que tout le monde allait dire « Oh yes hein !» Croyons à cela. Aspirez au don, dira l'apôtre Paul. Hein ? Et vous savez, je pense à ces temps-ci, à ces versets, ce verset que vous connaissez, Hébreux 11, 6, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, hein, d'accord ? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et cette phrase-là, la dernière, elle est toujours un peu... elle n'est pas facile à comprendre. Bien sûr, on comprend rémunération, salaire, etc. Oui, bien sûr, on comprend tout ça. Mais je veux dire, comment concrètement la percevoir, hein ? Moi, je pense que si je mets ma foi en action, il va rémunérer ma foi. Ça ne veut pas dire qu'il m'obéit, le Seigneur, hein ? Attention, hein, j'obéis au Seigneur. Ça veut dire que lui, il va voir ma disposition, et il va me donner sur le chemin que lui veut. Et si, mais seulement je ne mets pas ma foi en action, je reste là, je regarde, je peux dire, ah, on ne voit rien, on ne voit rien, on ne voit rien. Quelqu'un jour m'a dit, on ne voit rien dans votre église. Ah ben, j'ai dit, ben, parce que tu ne veux pas voir. Hein, c'est bon, je n'ai pas dit ça. Vous ne voulez pas voir, c'est un papy. J'ai dit, mais vous ne voyez pas ? Ben, venez. J'ai dit, regardez cette sœur, il y a eu ceci, ce frère, il y a eu cela, ça. Ah bon, je ne savais pas. Et à la fin, il est parti tout penaud. J'ai dit, mais oui, mais vous n'êtes pas attentif. Et puis, est-ce que vous aspirez au don ? Alors, j'ai fait un petit peu un cours, un sermon un peu carré. Hein. Voilà. Mais j'ai changé depuis. Du moins, j'espère. Pour vous. OK ? Quelqu'un peut me dire, oui, mais ce sont les apôtres ici. Ce sont les apôtres. Actes 8, 6. La foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, Philippe était un disciple qui avait été choisi, certes, pour servir aux tables, mais il a été qu'un disciple au départ, parce qu'après on voit que son ministère change, mais il ne cherche pas un titre, mais on voit qu'il est utile. Et mon frère, ma sœur, tu es enfant de Dieu, tu peux t'attendre à l'action de l'Esprit de Dieu, tu peux aspirer à la vie de Dieu, tu peux aspirer aux dons et à l'exercice des dons spirituels, pas obligatoirement que là, le dimanche matin, mais quand tu pries pour quelqu'un, crois que Dieu peut aussi guérir la personne. Quand tu fais ceci, cela, quand tu parles à quelqu'un de nouveau, pense que Dieu peut te donner une parole de sagesse ou de connaissance à son égard. Voilà, à ton insu peut-être, mais Dieu va faire grâce. Troisième chose, je termine. On a été libérés, donc je résume, dans le but d'annoncer un message particulier. Deuxièmement, dans le but d'incarner et de tester ce message. Troisièmement, qui est qui unit l'ensemble, c'est dans le but de glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, glorifier Dieu ? C'est bizarre, ça. Des fois, je suis sûr qu'on aurait, on s'interrogerait tous, on aurait un avis, une perception un petit peu multi-axe qui viendrait se compléter, parce que c'est tellement vaste. Alors je regarde, glorifier Dieu, c'est lui rendre gloire. Vous allez me dire, là, c'est facile, hein, la palisse en aurait dit autant. Le terme gloire en référence à Dieu dans l'Ancien Testament, ça a une connotation de grandeur et de splendeur. J'ai été chercher une définition. Le terme traduit par gloire dans le Nouveau Testament signifie dignité, honneur, louange et adoration. Donc vous avez compris, l'Ancien Testament, grandeur et splendeur. Nouveau Testament, ça a plus une connotation dignité, honneur, louange et adoration. Donc si on prend l'ensemble, on ensemble les deux. Je n'ai pas fait avec ChatGPT, je ne sais pas quoi, hein, ou l'IA, tout ça, hein, je vous assure. En assemblant les deux, on comprend que glorifier Dieu, c'est reconnaître sa grandeur et lui rendre honneur en le louant, en l'adorant, car lui seul en est digne. Vous comprenez ? La gloire de Dieu est l'essence même de sa nature. Et le glorifier, ça implique de le reconnaître comme Dieu. C'est pour ça qu'on doit croire que Dieu existe, si on veut vraiment glorifier Dieu, bien sûr. Alors comment je le glorifie ? Allez, laissez-moi être un peu plus concret. Ben, tout ce que tu fais, fais-le pour lui, comme quand le psalmiste, le fils de Coré, dira « Mon œuvre est pour qui ? Et pour le roi. » Si tu sers, sers pas pour toi, sers pas pour avoir une place dans l'église, sers pas pour dire « Tiens, tu as vu, vous avez vu, c'est moi, je suis capable de faire ça, dans mon identité, ça me fortifie ou ça me galvanise. » Non, non, tu fais pour lui, pour le Seigneur. Comment le glorifier ? En gardant ton cœur plus que toute autre chose. Vous connaissez ce proverbe. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et c'est important de pouvoir résister à l'œuvre de l'ennemi. Comment glorifier Dieu ? Face à l'épreuve, tu l'invoques. Tu te tournes vers lui au lieu de sombrer dans le désarroi plus bas. Bien sûr, c'est facile à dire, mais quand il y a, des fois, on aurait tendance à faire ça. Mais au lieu de baisser la tête, au lieu de s'abandonner à ses sentiments, à ses souffrances, à son cœur douloureux, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas souffrir. On a des sentiments, il faut les accepter. Mais à un moment donné, face à l'épreuve, il ne faut pas laisser ses sentiments nous amener plus bas. Parce que l'épreuve, elle doit être passagère. Dieu veut nous faire traverser l'épreuve ou nous en sortir, parce qu'il est le Tout-Puissant. Comment glorifier le Seigneur ? Eh bien, lorsque tu exerces l'hospitalité. On arrive en fin d'année, il y a des gens, ils sont seuls. Et je peux me satisfaire qu'avec ma famille, avec moi, avec ceux qui sont autour de moi, et voilà, j'oublie les autres. Comment je glorifie Dieu ? Eh bien, lorsque je témoigne aux autres de l'amour de mon Dieu. C'est pas un amour théorique, c'est pas un amour abstrait, nébuleux, c'est un amour profond, réel. Comment je glorifie Dieu ? Eh bien, lorsque je traverse les difficultés dans le calme et la confiance. C'est dans le calme et la confiance qu'est là votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, dira le prophète. Mais nous, on le veut. Comment je glorifie Dieu ? Mais lorsque tu ne fais pas comme tes collègues, qui sont toujours en train de faire des trucs un peu bizarres, ou critiques, ou qui sortent des blagues pas très saines, ou pas du tout saines, et si tu, bien sûr, tu les approuves, tu les attestes, tu ris, ben, y a un petit souci, mais peut-être sans tomber dans la colère, mais peut-être montrer que toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Comment tu glorifies Dieu lorsque tu portes beaucoup de bons fruits ? C'est l'évangile de Jean qui nous le dit. Si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Et on pourrait allonger la liste. Comment je glorifie Dieu ? Par aussi mon comportement. Ce n'est pas juste une manière de louer, mais c'est aussi une manière de vivre en l'honneur du Seigneur. Alléluia. Je conclue. Ils ont été libérés pour continuer à annoncer les paroles de cette vie. Continuons, mes frères et sœurs, à annoncer la parole de vie. Continuons. Et même si tu es jeune dans la foi, tu peux annoncer la parole de vie par qui tu es et par ce que tu vis. Ils ont été libérés pour incarner, attester la réalité de ce message. Et nous avons été libérés pour ne pas être des hypocrites qui font semblant d'être et qui sont différents. Mais nous voulons laisser Dieu vivre en nous par son esprit, nous changer, nous transformer, nous émonder pour porter encore plus de fruits, comme il dira aussi dans l'évangile de Jean. Tout ça, dans le but de quoi ? De le glorifier à lui. Tout ça dans le but de l'honorer. Un jour, on sera devant lui. Ce sera incroyable, Vous imaginez Dieu qu'on ne voit pas, qu'on loue depuis des années, on le verra. C'est pas d'ici-bas, On le verra dans la gloire. On le verra assis sur son trône. On verra aussi Jésus. On verra ceux qui nous ont précédés dans la gloire. On connaîtra ceux qui ont été Abraham et toute la clique. Pas très bien. Abraham et tous les autres. On les verra. Et comment on les reconnaîtra ? Je sais pas. Bienvenue au club de ceux qui ne savent pas. On ne sait pas. Mais on les verra, et on sera avec l'Éternel. Mais ici-bas, plein de gens ne glorifient pas Dieu, ils s'en moquent, ils ne connaissent pas. Nous étions des leurs auparavant. Mais aujourd'hui, on veut glorifier le Seigneur, on veut lui rendre la gloire. Aujourd'hui, on veut vivre différemment. Alors bien sûr, on peut lutter avec des choses, et peut-être des combats, etc. Mais la parole nous invite à nous positionner fermement. Et ne dit pas un coup soit là. Et souvent, dans les écrits bibliques, on voit que le peuple est appelé à se positionner. On voit au Mont Carmel, on voit le prophète dire « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds ?» Comme pour dire « Un coup vous êtes là, un coup vous êtes là, un coup vous êtes là. » Et Dieu va souvent dans la parole inviter Jésus-Christ, inviter les gens à se positionner de manière ferme, véritable. Pas, pas une pseudo, pas un petit peu, et puis je fais comme ça, une girouette. L'évangile girouette, ça n'existe pas. C'est celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus. Comme pour dire, n'essaye pas de trouver un chemin intermédiaire, il n'y en a pas. Ou tu es sur ce chemin, ou tu n'y es pas. C'est simple. Et ça, c'est l'appel de l'évangile. Et l'évangile, si un enfant peut le comprendre, parce que ce message est simple, mais il est tellement plein de vie. Mes frères et sœurs, 2025 s'ouvre devant nous bientôt, du moins j'espère, peut-être. Et on va entrer dans cette année 2025, ça ne va rien changer, à le mois de janvier n'est pas plus spécial qu'à notre voix, moi. On a toujours les mêmes choses, les mêmes défis, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a toujours le même Dieu qui, lui, ne varie pas. Nous, on vieillit, nous, on se fatigue peut-être, etc., mais lui ne change pas. Et sa puissance est extraordinaire. Il revient bientôt sur les nuées. Le Seigneur va bientôt revenir, c'est clair. On le voit, les signes vraiment annonciateurs sont de plus en plus flagrants, visibles, percutants. Et il y aurait que quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, qui ne comprend pas la Bible, qui dirait, ah bon, je ne savais pas, si le Seigneur revient. Hein? Le Seigneur revient, il n'est pas loin. Qu'est-ce qu'on va faire d'ici là? On continue à faire ce qu'ils ont déjà fait au début, et on continue aussi à vivre dans la présence de Dieu. Et cette année serait une bonne année de défi de se dire, mais est-ce que je ne pourrais pas vivre plus dans la vie de l'Esprit? Est-ce que je ne pourrais pas manifester plus l'action et l'onction des dons spirituels? Le Seigneur, il nous dit d'aspirer aux dons spirituels. Aspirer, je regardais le mot, là, il ne me vient pas à l'esprit, mais oui, c'est être bouillant de, comment dire, je cherche l'expression, il y a une expression que j'avais marquée, je l'ai oubliée de mémoire, bon, on me pardonnerait, je le dirai une autre fois, hein, dans le sens de, ce n'est pas une aspiration, juste, j'aspire. Hein, c'est être comme embrasé, tellement bouillant pour que ces choses se passent, hein, et ça manifeste la gloire de Dieu, parce que s'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, si je cherche vraiment à entrer dans ce qu'il veut, il va me donner ce qu'il veut, non pas pour moi, hein, mais pour son royaume, hein, pour que son royaume établisse et que sa volonté soit faite. Donc je vous fais notre prédication, on s'arrête là, on va prier ensemble, on courbe nos fronts mes frères et sœurs. Ta parole est pleine de grâce, est pleine d'amour, pleine de victoire, mais aussi de justice, de vérité. Tu ne nous caches pas les choses. Tu ne nous as pas caché que, Seigneur, l'opposition serait manifeste lorsqu'on croirait. Tu ne nous as pas dit que tout serait facile et sans embûches, mais bien au contraire, tu nous as dit que tu serais avec nous. Et c'est là notre joie, c'est de savoir que si nous sommes en toi, Seigneur, quoi qu'il advienne, Seigneur, nous pouvons faire face, non pas parce que nous sommes capables nous-mêmes, mais parce que tu nous rends forts par ta puissance. Merci pour les grâces que tu as accordées, et nous ne voulons pas être ingrats. Nous ne voulons pas, Seigneur, vite oublier ce que tu as accompli. Nous voulons chaque jour nous rappeler tes bontés. Ta fidélité est grande, elle est incommensurable. On ne peut pas sonder vraiment qui tu es avec notre petitesse et notre intelligence, mais nos cœurs sont remplis de ton esprit. Et nous prions que tu illumines les yeux de notre cœur. Oui, illumine notre vie, pour que nous discernions vraiment qui tu es et les profondeurs de ton amour, de ta grandeur. Oui, tu aspires, Seigneur, nous voulons aspirer à la vie de l'Esprit, mais tu souhaites certainement toi aussi investir bien plus nos vies, de ta présence. Je prie de nous donner d'aller de l'avant les uns les autres, dans la foi, dans l'amour, mais aussi dans la vie spirituelle. Seigneur, donne-nous de savoir distinguer ce qui est juste de ce qui n'est pas, de ce qui est pseudo, de ce qui est vrai. Nous ne voulons pas nous laisser aveugler ou entraîner sur des voies contraires, mais nous voulons marcher à ta suite. Donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Donne-nous d'incarner ton message. Donne-nous de vivre, Seigneur, de progrès en progrès pour la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Amen. On reste recueillis, si vous voulez bien. J'ai invité les frères à venir pour la scène.